Allô, c'est Sylviane de Paris, les 20h et des cacahuètes. Le journal de la 2 s'ouvre à nouveau sur un fait divers qui se passe en Angleterre. Alors qu'on a en France des profs en grève, il y a une actualité internationale, il se passe des choses à Gaza et on nous bourre le mou toute la journée. Je craque, j'en peux plus devant toutes ces infos de merde, voilà.
Oui, bonjour les AMG, bonjour Daniel, c'est Myriam. Je vous téléphone au sujet de l'action des enfants de Don Quichotte. On est installé quai de GMAP, c'est en solidarité donc avec les SDF. Venez le plus nombreux possible avec vos tantes ou sans vos tantes, c'est pas grave. C'est extrêmement important. Voilà, donc c'est Métro Bon Sergent. Et Daniel, si tu pouvais venir faire une émission avec les enfants de Don Quichotte, ce serait vraiment génial. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.
Alors, à tous les AMG de Nîmes, le rendez-vous, eh bien, c'est pour demain. Mercredi 20 décembre, nous nous réunirons au Petit Subito, 5 rue Jean-Robert, comme d'habitude. On vous attend à 19h23 et ça va discuter ferme. À bientôt pour des débats riches et variés.
Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Vous savez, c'est une chanson. Ils aiment bien la chanter, tous les ans ils la chantent et ils font des grands galas avec ça, et puis après ils vendent des disques. Oh, les profits vont certainement pour des œuvres caritatives, mais il n'y en a pas un qui s'est interposé entre les CRS, enfin, ou les policiers, je ne sais pas ce que c'était, qui sont en train de virer des sans-abri qui logent sous des tentes dans le port de Paris. C'est déjà une honte qu'il y ait des gens qui logent sous des tentes dans le port de Paris, mais en plus, ils sont virés par les keufs. Et il n'y a pas un de ces beaux chanteurs qui vient s'interposer entre eux et la police. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Et non. Voilà.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre aux infos là que la police avait délogé 20 sans-abri qui campaient sous des tentes près de la gare d'Austerlitz depuis l'été dernier et que on leur a précisé qu'ils pouvaient garder leur tente s'ils allaient camper ailleurs qu'à Paris. Donc voilà où on en est. Donc on se rapproche de certains pays où il y a du tourisme et où il y a une dictature et de la pauvreté, puisque j'avais entendu parler qu'à Cuba, je sais pas si ça se fait toujours, mais certains quartiers sont interdits aux pauvres, sont réservés aux touristes. Donc Paris est réservé aux touristes et aux riches, et les pauvres sont priés d'aller se faire foutre ailleurs. Donc je pense que bientôt on va nous créer Pauvreland, hein, et puis on les expulsera à Pauvreland, les sans-abri. Donc je sais pas, on attend quoi là? On va laisser faire des trucs comme ça jusqu'à quand? Bruno Paris, bah vous m'avez reconnu. Allez, salutas.
Oui, bonjour Mermet, bonjour à tout le monde là. Il est 8h là ce matin. Je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé d'entendre Sarkozy qui promet que dans 2 ans, s'il est élu, il n'y aura plus de SDF. Vraiment là, on est au summum de la connerie. Un homme qui est au pouvoir depuis 4 ans, il n'a rien fait du tout, à part de se servir de ses matraques. Alors franchement, me réveiller le matin et entendre des choses comme ça, j'ai envie de retourner dans ma couette et bien dormir. C'est une honte. Quand je dis ma couette, je pense aussi quand même à certaines personnes. J'ai encore un peu le privilège d'avoir un lit. Mais franchement, c'est une honte. Dégoûté, là. Alors, les gens qui vont voter pour lui, eh bien, qu'ils réfléchissent avant, hein. Allez, c'est Mermet, et je crois que je vais dormir pour la journée. Salut. C'est Bruno Tempe.
Sarkozy, toujours lui? Eh ben oui. Il vient de s'apercevoir qu'il y avait des pauvres sur les trottoirs à Paris. Et il se donne 2 ans après l'élection présidentielle pour qu'il n'y ait plus un seul SDF à Paris. Remarque qu'il a déjà commencé, hein, parce que... Il y a encore des SDF qui se sont fait virer Manu Militari par des flics la nuit dernière dans Paris. Donc, bon, Non, mais ce qui trouve le cul à tout le monde, c'est quand même ce mec-là, avant d'être ministre de l'Intérieur, a été ministre de l'Économie. Donc ça va faire 5 ans qu'il est au pouvoir et il a rien branlé. Et surtout quand il était ministre de l'Économie, parce qu'il aurait pu se démerder pour dégager des fonds pour reloger les SDF et leur donner à bouffer. Eh ben non. Et puis là, bon, bah, il est en campagne électorale. Mais j'espère que personne gobe les théories de ce guignol. Non, mais franchement. Déjà, Jospin disait zéro SDF. Bon, d'accord, mais on savait pas comment il allait résoudre le problème. Mais là, alors là, lui, c'est le sommet. Voilà, c'est rigolo l'info. Et quand je pense qu'il n'y a pas un seul journaliste à France Inter pour se foutre de la gueule de ce truc. Enfin, bref. Allez, salut, c'était Fred d'Hauteville.
Allô, bonjour, c'est Thérèse Marie, donc du nord de la France. Voilà, j'appelle. Hier, j'ai écouté l'émission et donc je voulais dire que ma belle-mère, en fait, est d'origine ukrainienne, en fait, et je voulais dire que cette génération donc de Russes immigrés ou d'Ukrainiens qui ont connu donc le régime de Staline et la déportation dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale ont vraiment un moral d'acier. Alors j'avais déjà envoyé des messages qui racontaient ce que Galina, donc ma belle-mère, qui maintenant a 82 ans, avait vécu dans son pays d'origine, l'Ukraine, à l'époque de Staline. En ce moment, on parle des rafles en France. Tous les jours, le réseau Éducation sans frontières m'informe par Internet des parents et enfants sans papier que la police de Sarko, aidée des collaborateurs zélés, renvoie à la frontière sans état d'âme dans des conditions d'humiliation et de violence qui ne sont pas dignes d'une démocratie. Ces actes inhumains renvoient à une image qui semble la même à toutes les époques partout dans le monde. Galina, donc la grand-mère de mon fils, nous l'a décrite. Elle avait 10 ans environ, donc environ vers 1935, quand des membres de la NKVD ont emmené son oncle en pleine nuit. L'arrestation a été d'une violence terrible. Galina en a encore la gorge nouée quand elle doit évoquer cet événement. Parce qu'une balle de fusil avait été retrouvée dans leur jardin, son oncle fut accusé de trahison et d'anticommunisme. Mais d'où venait cette balle? Qui l'avait placée là? Où a-t-il été emmené? Très certainement en Sibérie. Ils ne l'ont jamais su, ils ne l'ont jamais revu. Tous les régimes totalitaires et de terreur suivent les mêmes règles, ont les mêmes codes.
Et merci pour ce message, chère auditrice. Je crois qu'on peut cependant dénoncer la démagogie de certains candidats sans pour autant faire des comparaisons quand même entre le NKVD de Staline et la police française. Je crois que là, il y a quand même un amalgame un peu excessif, mais ce que vous dites de Galina, eh ben, c'est nombreux témoignages qu'on a pu nous-mêmes au cours des années de nos voyages à travers la Sainte Russie et la Sibérie rapporter et entendre. Et aujourd'hui, on continue donc dans le Avorkouta, au-delà du cercle polaire. Gloire à ceux qui ont vaincu le cercle polaire. Une histoire cachée dans la poche du temps, celle des Zèques. Celle du goulag, c'est à contre-temps, effectivement, on ne voit pas pourquoi on parle de ça en ce moment, mais c'est une façon aussi d'aller à contre-temps que de vous présenter ce reportage et d'essayer de contextualiser. Puis essayez aussi de repenser à ceux qui se sont opposés, qui ont compris ce que le régime soviétique pouvait avoir, allait avoir de totalitaire et d'intolérable. Et parmi ceux qui ont dénoncé, je parlais hier de Victor Serge, eh bien, il y en a une autre qui a dénoncé, c'est Rosa Luxembourg. Et Rosa Luxembourg écrivait « La liberté seulement pour les membres d'un parti aussi nombreux soit-il, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. » Magnifique. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Elle a été assassinée, ainsi que Karl Liebknecht, le 15 janvier 1919. Et je cite ça, c'est une citation d'Edgar Morin, dans un bouquin que je vous conseille, qui vient de paraître il y a quelques semaines, qui s'appelle « Le monde moderne et la question juive », où Edgar Morin, nous décrit sa conception de cette question juive dans ce monde moderne, à travers évidemment sa lecture à lui. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, ce sera notre sujet dans quelques jours ou peut-être semaines, mais je tenais à vous citer cette phrase de Rosa Luxembourg qui peut nous éclairer au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, pas seul évidemment, avec Aude Merlin, notre traductrice et amie, et aussi avec Yuri Mikhailovitch Yakovlev, K63. Ça vient après les messages que voici, choisis parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Georges, chauffeur-livreur de la Champagne-Ardenne, en retraite le mois prochain, après 42 ans de bons et loyaux services, selon la formule consacrée. Alors, je te suis depuis le début des années 80, où tu racontais des histoires, avec Ugly, hein, c'était super. Maintenant j'écoute là-bas si j'y suis, dans mon bahut, et puis à partir du mois prochain, je t'écouterai dans mon camion. Je t'écouterai à la maison, je veux dire. Je suis un peu ému. Alors je t'écouterai à la maison, et puis je voulais souhaiter bon courage à toute l'équipe, en espérant encore vous écouter de nombreuses années. Allez, salut là-bas si j'y suis, et bon courage.
Bonjour Daniel, vieille fan de ton émission. Je sais que tu t'intéresses aux exclus et aux gens qui souffrent dans notre société. Je profite donc de ton répondeur pour lancer une invitation à tous les mélomanes. Le jeudi 21 décembre, donc jeudi qui arrive, à 20h45, en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, c'est au 92 rue Saint-Denis dans le 1er arrondissement, le sublime violoncelliste Christophe Coin et son ensemble baroque de Limoges viennent jouer gracieusement pour les personnes à la rue. L'entrée est gratuite. Une participation libre sera remise à l'association Les Margéniaux, dont l'idée fondatrice est le don gracieux de la musique aux personnes en état de précarité. Je rappelle donc, jeudi qui vient, à 20h45, en l'église Saint-Leu, au 92 rue Saint-Denis, c'est le métro Les Halles, concert gratuit avec Christophe Coin et l'ensemble baroque de Limoges. N'hésitez pas à venir nombreux. Merci beaucoup Daniel.
Bonjour tout le monde, Karine du Limousin. Je viens d'entendre Monsieur Bip, candidat à la présidentielle 2007, je n'ai pas très envie de citer son nom, qui donnait des propos assez particuliers. Il disait, j'espère que si je suis élue, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue d'ici deux ans, me semble-t-il. Et je crois que je lui ai trouvé la solution pour ça, les charters. Vous savez, ces avions, très, très beaux avions, les charters, il met tout le monde dedans, il faut tout le monde dehors. Voilà. Allez, salut, bisous à tous.
Да? И открой, и там такая есть коробочка, и вилки лежат там дальше.
И dedans, il y a les fourchettes.
Коробочка там, открой эту коробочку.
Et tu ouvres cette boîte, et là, il y a un ouvre-bouteille.
Штопор.
Un ouvre-bouteille.
Это вино.
Parce que pour ouvrir le vin, il faut un nouveau bouteille.
Parce qu'il
y a un bouchon.
Ah voilà.
Opa, opa, какая ты растрепа, кудри растрепала, в милицию попала. Опа, да опа, какая ты растрепа, тоже как бы да. Там нет этих слов. Слов этих нет, это там глотая такая песенка. Опа, опа, какая ты растрепа.
Я пали пароль, как же дит. Опа, опа, как ты делюре.
Какая ты растрепа. Кудри
растрепа. Ты декуафе, твои шевы сон денуэ.
Ура.
Ну там этих слов нет.
И là, ces mots-là n'y sont pas. C'est nous qui avons mis ces paroles sur cette musique.
Был К-63.
Moi j'avais le К-63.
Да. Эх ты жизнь моя, да косолапая, а чего ж ты горишь кровью капая, кровью капая, а в пыль дорожную, а случилось со мной невозможное от хозяина.
Ah, quelle vie de patte tordue, quelle vie de chien, je voudrais tant échapper de mon maître et retrouver la liberté.
Когда? Сегодня, в 13.30. Время московское.
Мы знаем, кто.
Ярослав Баштан, посол Чешской Республики в Москве.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermer, avec Aude Merlin et Yuri Mikhailovitch Yakovlev, K63, la baraque, la plus gaie du camp.
Flight number 2, arriving from...
Oui, on l'a... Ah, il commence à faire très très froid, là. Moins 17. Et là, on est au milieu d'un cimetière. Au milieu de croix, il faut faire très attention parce que il y a des trous là. Hein. Là, on s'enfonce, je me suis enfoncé jusqu'au genou. Et c'est quoi ce cimetière là? Qui sont les gens qui sont?
А количество людей, которые здесь проживали по территории кладбища, видите, оно довольно значительно распространялось за эту дорогу.
Ça vous donne une idée des gens qui vivaient, du nombre de gens, parce qu'il y en a partout là.
Сколько бы вам ни говорили, что сколько было тут людей?
Évidemment, je ne peux pas vous dire exactement combien il y a de gens enterrés ici.
Цифра как-то так не впечатляет, но вот это зрелище, оно должно произвести впечатление.
Quand on voit ça, on comprend quand même qu'il y a eu des détenus, des gens qui ont vécu ici.
C'est un petit peu de mémoire, quoi.
Да, что это все-таки напоминание.
Oui, c'est un souvenir.
C'est pour ceux qui ont eu une sépulture, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu de sépulture.
Без Христа, без ничего, да.
Oui, il y en a beaucoup qui sont morts et qui n'ont rien eu.
Этим еще повезло, о них еще какое-то напоминание.
Eux, ils ont eu de la chance parce qu'il y a quand même leur mémoire qui est encore là.
Мы вышли в сад, чуть слышно трепетали последние листы на липовых ветвях, а вечер голубой наполненный печалью. Бред не догорал в задумчивый.
Ну, посмотрите, вот этому человеку было всего 30 лет.
Regardez, lui, il est mort à 30 ans.
Ah, il est mort en 1951. À 30 ans, il s'appelle comment?
Yosif Ivanovich Kuleba.
Voilà, un zec. Un zec parmi d'autres. Un zec parmi des dizaines de milliers de zecs et 400 000, 450
000. Один из этих людей остался здесь.
Un de ceux-là.
Я не думаю, что... Я не думаю, что 30 лет это возраст, когда нужно умирать.
Je pense pas que 30 ans ce soit l'âge auquel on doit mourir. Combien il y avait de cimetières? Il fallait bien enterrer les détenus. Là où il y avait un camp, il y avait un cimetière.
Parce
que comment on pouvait enterrer les détenus?
D'abord, il
n'y avait pas de cercueil.
Jusqu'en
1950, avant l'arrivée des troupes du NKVD, il n'y avait pas de cercueil. On les enterrait nus, sans cercueil.
Пальцу к большому к левой ноге и все, и под снег зимой.
On les mettait sous la neige,
а как
en hiver.
Растает.
Et après, quand ça fondait,
так, значит, тоже кто-то могилу никто не
рыл. Neige fondait, après,
подмог,
on pouvait
чуть-чуть там подмог,
faire une petite tombe, on mettait le corps sous la mousse.
И такой колб. Колб забьют.
Et après, on mettait un petit poteau.
Бирочка.
Et une petite planchette en haut du poteau.
Маленькая. И там номер.
Et là, on mettait le numéro.
Там номер.
Un numéro.
Его.
Le numéro du détenu.
Ведь номера были у всех.
Puisque tous les détenus avaient des numéros, les travailleurs forcés, les détenus.
У меня был К-63.
Moi, j'avais le K-63.
une histoire cachée dans les poches du temps. Évoquer aujourd'hui le goulag, c'est se souvenir à contre-temps. C'est pas le moment. C'est pas le moment d'évoquer ça. Il y a d'autres mémoires qui nous encombrent, d'autres histoires qui nous hantent. Le goulag, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est comme ça. L'histoire, ça nous sert à, pour le présent. Si, évidemment, on avait des problèmes en fourniture de gaz avec notre ami Poutine, peut-être qu'on évoquerait le goulag. Peut-être que lui l'évoquerait plus souvent si il n'avait pas choisi de guérir les blessures du sentiment national russe qui fait de ce goulag un oubli. On cherche à oublier en ce moment en Russie cette mémoire-là. C'est ainsi, c'est comme ça, les peuples sont ainsi, et puis un jour ça remonte à la surface. On ne sait trop comment ni pourquoi exactement. 10 à 15 millions, entre 30 en 1930 et 1953, sont passés par ces goulags. On a les images, on a les histoires, on se souvient des récits. Une auditrice évoquait à l'instant cette femme qui récitait. Alors on croyait que c'était un livre qu'elle lisait, alors que c'était un livre qu'elle avait complètement imaginé. Des histoires extraordinaires de résistance, de survie ont été racontées. Et il y a une histoire singulière que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est le théâtre au goulag. Il y a eu du théâtre dans ces goulags, et notamment là où nous sommes, à Vorkouta. Alors évoquer les zecs, les détenus en train de monter sur des scènes et de s'amuser, de chanter, ça paraît une joie étrange, une allégresse presque indécente, et pourtant ça a existé. On choisira de voir là une innocence, on choisira de voir là une résistance, on choisira de voir là que c'était peut-être pas terrible que ça, et que somme toute, là aussi, le bilan est positif. On entendra cette chanson-là aussi, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, on va passer cette heure à nouveau avec Yuri Yakovlev Mikhailovitch, 85 ans, K63, 10 ans de camp. Hier, il nous a raconté comment il est né à Leningrad, comment il s'est battu à Leningrad, comment sa mère a vécu, qui chantait à l'opéra de Leningrad, a connu le blocus de Leningrad, et comment son frère est mort au cours de la grande guerre patriotique, comme on dit encore en Russie, et comment lui, allant se battre à Stalingrad, a été fait prisonnier par les Allemands, ce qui a été une raison suffisante, puisque qui se faisait, était prisonnier et devenait un collaborateur potentiel, alors pour devenir un ennemi du peuple et pour être envoyé au goulag. Il est passé par ce goulag pendant 10 ans, et le goulag, ben c'était ici, c'était à Vorkouta, dans les mines. Vorkouta, c'est les mines. Les détenus ont été envoyés dans différentes parties de l'immense URSS pour différentes tâches. Le bois, l'or, dans la Colima, à Magadan, l'hydroélectrique, tout un tas de tâches, la construction de voies ferrées, de routes, tout un tas de tâches auxquelles ces hommes, réduits tout simplement à l'esclavage, ont dû user leur vie. Eux qu'on appelait les crevards, eux qu'on appelait les maigrolles, eux qui ont survécu comme ils ont pu à cette monstruosité qu'a été le goulag, qui a pris fin officiellement en 53, mais s'est prolongé, même si peu à peu les camps se sont vidés. Encore au début des années 80, on pouvait dénoncer des goulags où étaient, enfin des camps, disons, on n'employait plus ce mot, mais il y avait encore des camps où des opposants étaient détenus, mélangés avec des droits communs. Alors voilà, la promenade aujourd'hui dans cette ville étonnante de Vorkuta, étonnante pour nous parce que c'est un paysage singulier. Ça nous rappelle rien en fait, j'allais dire, ça nous rappelle un peu les villes du nord de chez nous à cause de la mine, mais il y a eu quelque chose de la grandiloquence soviétique dans la construction de cette ville, et puis dans le rôle qui était donné aux mineurs. Aujourd'hui, ben c'est le déclin. Les gens ont plutôt tendance à quitter cette ville, même si on promet que le charbon reviendra et que la prospérité est pour demain. On n'y croit plus beaucoup à ces lendemains qui chantent, même si Yuri, lui, chante encore. C'est extraordinaire, parce que au moment même où partout en Europe on chantait, il y avait l'aurore, c'était pour demain, on chantait la patrie du prolétaire, etc. Ce qui était le symbole de la libération des ouvriers, de la grande émancipation, c'était l'URSS exploitait de la manière la plus monstrueuse des hommes, en prenant n'importe qui pour en faire des détenus, et en les envoyant bosser dans des conditions terribles, quoi. On n'a pas bien réalisé quand même encore, hein,
Ну, это не понимали даже у себя в стране люди, не знали про это дело.
Vous le compreniez pas en Europe, mais ici non plus, les gens ne le comprenaient pas en temps réel de ce qui se passait.
Даже дети тех, кто дети, родители, которые сидели, зачастую не совсем полностью представляли ужас вот тот.
Les enfants dont les parents étaient détenus ne se rendaient pas compte de l'ampleur de l'horreur.
Потому что родители давали обязательство или подписку о неразглашении того, где они были, чем занимались, обязаны были не говорить. Иначе репрессии грозили их детям.
Parce que les parents étaient sommés de ne jamais rendre public et de ne jamais dire à leurs enfants ni à quiconque où ils avaient été détenus et ce qu'ils avaient fait, sinon ils étaient à nouveau réprimés.
D'accord, mais est-ce qu'on sait combien sont passés entre 1931 et 1956?
Значит, только картотека заключённых, репрессированных, которые были в Иркуте, содержит больше 400 000 сведений, карточек.
400 000. La seule cartothèque qu'on a contient déjà plus de 400 000 cartes de détenus, de réprimés.
Те, которые были обвинены, предъявлены какие-то обвинения.
Ceux qui ont été accusés de crimes, accusés de trahison.
Accusés de n'importe quoi, et qui ont travaillé à la construction de la ville, à la mine et à la construction de la voie ferrée.
Да.
Mais comment ils les amenaient?
Значит, летом они шли, этапы, так называемые этапы. Эти колонны двигались от лагеря к лагерю. Значит, лагеря располагались вдоль трассы железной дороги через каждые 10 километров.
C'était une avancée progressive, puisque les détenus étaient déplacés de camp en camp. Au fur et à mesure qu'ils avançaient en construisant la voie ferrée, ils étaient déplacés comme des camps mobiles.
Oh, d'accord. Et ça a été mortel, hein. On dit que c'est un mort par traverse.
Если я говорю, что 400 тысяч прошло, погибло это все 13-14% от этого.
Si je vous dis que 400 000 détenus sont passés par là, et environ 13-14% sont morts.
Это что получается?
Ça fait combien? 40 000?
Ça fait entre 50 et 60 000 qui sont morts.
Oui,
cela dit, ils sont morts de quoi?
Они от чего умирали?
Основное истощение, труд, плохая одежда, болезни.
Surtout maladie, le fait qu'ils étaient très peu vêtus, pilagre, très peu couverts, le travail.
Pilagre, цинга.
Что такое пилагра?
Пилагра, ну, вот это от недоедания, от недостатка витаминов.
Manque de vitamines, sous-nutrition, scorbut.
Дизентерия.
La dysenterie.
И измучены были вот это вот. Тяжелый очень труд был, ручной, все в основном ручной.
Et comme ils faisaient le travail à la main, ils étaient épuisés et le travail les a tués.
Так вот, эта песенка называется «Ах ты жизнь моя да косолапая».
Ça, c'est une petite chanson qui s'intitule «Ah, ma vie, la patte tordue.
Ой, ты жизнь моя, да косолапая, а чего ж ты горишь, кровью капая, да пыль дорожную, а случилось со мной невозможное, ах, не решу никак, ай, незадачия, а чего же у собак жизнь собачья, а хуже Каина, а убежать бы мне, да от хозяина злого жадины, не зазря да нам собакам клички дадены.
C'est ah, quelle vie de pattes tordues, quelle vie de chien, je voudrais tant pouvoir m'enfuir, échapper à mon maître. Une goutte de sang qui brûle, une goutte de sang qui coule, qu'on ne peut refroidir. Mais moi j'aimerais tant me libérer de mon joug, de ma prison, je voudrais tant m'échapper, m'échapper de mon maître et retrouver la liberté.
Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi tu nous emmènes ici, dans ce désert glacé, avec cette lumière toujours aussi belle, de plus en plus belle d'ailleurs, avec ce soleil qui n'en finit pas de se coucher, rose, bleuté, à l'infini, et puis cette pollution, et puis cette désolation, et puis cette mémoire. Qu'est-ce qu'on fait là?
Вот эта дорога, удивительная дорога, которая была построена 70 километров на север.
Ça c'est une route étonnante, c'était la voie ferrée construite qui allait à 70 km au nord.
Там добывался очень высококачественный уголь, был поселок на 3000 человек.
Parce qu'il y avait au bout de cette voie un peuplement, une zone de peuplement et d'extraction d'un charbon de très grande qualité et 3000 travailleurs qui vivaient là-bas, qui extraient le charbon.
10 лет. Она была закрыта, эта шахта, тому назад.
Il y a 10 ans, la mine qui était au bout a été fermée.
Люди все вывезены.
Les gens ont été transférés, ils sont partis.
И буквально в прошлом году были сняты рельсы.
Et il y a un an seulement, on a enlevé les rails.
И вот так вот уходит человек, вот уже никакой дороги, ничего не остается.
Ah, c'est sous nos pieds, ces traces-là sont sous nos pieds. Ok.
Il n'y a pas de neige. Oh. Pourquoi le niveau en dessous, il y avait les cellules?
Ah, ici, il y avait les cellules.
Comme caméra, comme caméra. Il y avait
les cellules.
Mais ça a été le mitard du camp, c'est un lieu où on torturait, et puis après, c'est devenu une église.
Quand le lager, сами бараки в лагере были деревянные.
Tous les baraquements du camp étaient en bois.
Они были непрочные, легко разрушались.
Ils ont été détruits, c'est assez du matériau léger qui a été détruit très vite.
Ah, это, помните, говорил, это барак, это тюрьма.
Mais ça, c'était une prison.
Она со всех зданий была кирпичная, основательная.
C'était le seul bâtiment qui était en briques.
Вы хотите романс, я вам спою как раз.
Si vous voulez une romance, je peux vous chanter. Là, il y a le printemps qui arrive.
Уже, ну, у нас все зима, да?
Ici, c'est tout le temps l'hiver, remarquez.
Так вот, есть такой роман цыганский, старинный.
Il y a une vieille romance цыгане.
Когда-то его исполняла Церетели, Тамара Церетели.
Тамара Церетели l'a plusieurs fois chanté. Quelle chanteuse!
Вчера я был у тебя, был вечер холодный, пустой, и чувствовал, как, не любя, ты говорила со мной. Но ведь раньше была ты нежная и любила, ласкала меня. Ты мечта недоступная, снежная, разлетишься в тумане, звеня.
Quel organe!
Non, y a...
Alors, dis-moi.
Toi, le printemps, tu arrives. La neige va s'envoler dans le brouillard. Et j'entends déjà le son du printemps.
<t'en>
Тоже пишите, что ни у кого нет сейчас уже этого.
Des chansons que personne n'a et que moi j'ai encore. La plupart des gramophones sont cassés, ils marchent plus et lui il en a.
Вещи прекрасные,
конечно. Тебе не найдешь. Тебе
не поют они. Поют тренда баба, тренда дед, похватили, хлеба нет. Ложись баба на кровать, буду хлеба добывать. Вот это они поют.
Maintenant, voilà ce qu'ils chantent. Ils chantent de, vraiment des trucs. C'est n'importe quoi ce qu'ils chantent aujourd'hui.
Je sais pas si vous êtes très nombreux à avoir déjà entendu cette artiste. Tamara Tsereteli, mais alors je suis absolument ravi de vous la faire découvrir et ça fera très plaisir à Yuri, à Kovlev, K63, parce que lui, il aime, il est amoureux de cette voix et il a chanté, il a été chanteur, il y a dans sa maison où il nous reçoit ce soir-là, cette nuit-là, une nuit blanche, comme elles arrivent à partir du mois de mai, dans cette région du monde, eh ben, il a chanté. Il y a une grande photo qu'il représente en chanteur dans sa jeunesse. Et à côté de cette grande photo, en noir et blanc, superbe, il y a ce gramophone et c'est les disques de cette chanteuse Tamara Tsereteli. On est absolument heureux d'être là avec Yasacha, notre ami de Vorkuta, de Mémorial, Yao de Berlin, et puis il y a Yuri Yakovlev, K63, et vous.
Vous êtes unique pour moi. Toi, tu es comme ça. C'est un conte magique.
Un sorcelé.
Cet automne, je m'ouvrirai. Je rêve d'une chose, je prie pour une chose. Ne mentez pas.
Не лгите. Это отыгрыш.
Ça c'est un petit interlude.
Вы светлая, лучистая.
Vous êtes lumineuse comme un rayon. Avec Но если правда
чистая, вот этих всех слова, отброшу я сомнения,
прощу
каприз я
вам. Tous mes caprices sont pour vous.
И жизнь свою.
Et ma vie.
Последнюю.
Ma dernière vie.
Я с радостью отдам.
Je la donnerai avec grand plaisir.
Возьмите.
Prenez-la.
Возьмите.
Возьмите.
Это еще я спою вам тоже. Я всего старый кучер Афонька, я кобыле насыпал овес, так звени же гитара тихонько. Доведи ты кобылу до слез, пусть заплачет скупыми слезами и напомнит про те вечера, когда были мы кучерами, когда не были мы фраера, как пшеницу нам сыпали в ясли, на закуску несли, а на нас, словно сыр, мы катались в масле. И никто не катался на нас, и никто, и никто, и никто не катался на нас, и никто не катался на нас.
Nous sommes de pauvres juments, on nous demande de venir et nous venons. On nous a donné des grains depuis toujours, mais jamais d'ananas. Et personne, et personne, jamais, ne nous a chevauchés, ne nous a montés. Nous sommes de pauvres juments. Personne n'a jamais galopé avec
nous. Aujourd'hui, on a fait le tour un petit peu avec Sacha. Il n'y a pas tellement de traces de ces camps, de ces baraques. Et on dirait qu'on a un peu honte ici, à Vorkuta, de la mémoire du goulag.
Ну, понимаете, лагеря, когда начали закрываться...
И вы понимаете, когда мы начали закрывать лагеря...
Когда начали закрываться, их сносили все.
On les a enlevés,
бараки on a... сжигали.
On a brûlé les baraquements.
И это, ограждение снимали,
on a enlevé,
подпиливали, чтобы...
Toutes les palissades, on a scié tout ça.
И все.
Et c'est tout.
Et voilà.
Лагеря фактически, от них не осталось ничего.
Il reste rien des camps aujourd'hui, de fait.
Ну, зачем их держать?
À quoi bon les garder?
Смысла-то нет.
Il n'y a pas de sens.
Людей нет, а зачем здесь?
Il n'y a plus de gens, à quoi bon garder les baraquements?
Ouais, voilà. C'était du bois, hein?
Это же не исторические памятники. Они никому не нужны, поверьте.
Personne. Ça n'était pas comme des statues ou des monuments historiques.
Et
personne n'a besoin de voir ça devant ses yeux. Ça fait que retourner l'âme. On n'a pas besoin d'avoir ça devant les yeux. On n'a pas besoin des camps, de façon générale.
Voilà comment fonctionne la mémoire. Je dis pas la mémoire de tous les anciens, évidemment, du goulag, enfin des survivants. Cette façon de dire, oui, écoutez, bon, bah voilà, la page est tournée, pourquoi se souvenir de tout ça? On préfère se rappeler des bons moments. Et c'est vrai, après tout, que si on pense aux chiffres extraordinaires, des blessures qui sont impuissants à donner la dimension de ce qu'a été le drame vécu par l'URSS, 55 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des chiffres faramineux. Et on avance ce chiffre très très couramment, dont plus de la moitié de population civile. Donc, en 1945, il y avait 2,5 millions de détenus politiques et de droit commun dans les goulags. Et ça semble presque un détail, comme dirait Le Pen, dans ce drame, ce chaos qui, pour nous, est dépourvu de sens au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est une des raisons pourquoi on a voulu aller à Vorkuta. C'est que peu à peu, cette mémoire s'éloigne et c'est comme un autre monde, c'est comme d'autres gens, d'autres personnes qui n'auraient plus beaucoup de rapport avec nous, de contact avec nous, sinon à travers des choses qui deviennent de plus en plus irréelles. Et là, avec Yuri qui n'aime pas trop revenir sur tout ça, remuer ces souvenirs-là, peut-être parce que voilà, il arrive à 85 ans, il préfère se souvenir des bons moments, peut-être a-t-il des choses qu'il ne veut pas... se révéler à lui-même, qu'il a enterré quelque part dans sa mémoire, dans les poches du temps, dans les poches de son temps à lui. Mais quand même, on est en lien avec cette mémoire et ça nous semble indispensable.
Il faut croire à son cœur. Tout va vers la victoire et vers la confiance. Comment peut-on mesurer l'amour? Un cœur pour un petit bonheur. Qui trouvera le calme, la sérénité?
Рядом может быть искать не nada.
Ça n'est pas la peine de chercher. Peut-être qu'il vient derrière nous.
Moi, je donne des nations. Vous dites même casaza.
Cela va nous sembler pendant très longtemps.
Tango.
C'est un tango.
Tango.
On a une prekrasna muzika u Ruski.
On a de superbes musiques.
On a Ruski.
Nous les Russes. Voilà la conclusion du traître à la patrie, du mineur.
Воспитатель молодежи, которому дал много знаний.
Et de l'éducateur jeune qui a transmis ses connaissances dans son institut, dans lequel il a enseigné pendant 31 ans, de 69 jusqu'à 2002.
Le traître à la patrie.
Izmennik Rodine.
Да.
Oui.
Да. Oui. Да, 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 да.
Oui, 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 oui.
А потом говорите, извините, говорят, мы не того поймали.
Et après, ils me disent, ah, excusez-nous, on s'est trompé, c'est pas celui-là qu'on voulait attraper.
Вы, говорит, может, старте? Да, мне в партию еще предлагают.
Après, on m'a proposé de venir au parti. Je dis, quelle partie?
Mais traître à la patrie, ça t'a coûté quand même 10 ans de goulag.
10 лет в лагере.
10 ans au camp.
Да. За проволокой.
Derrière les fils barbelés.
Самые лучшие годы. Мне было 31, а я освободился, мне было 3. Я посадили меня в 21, я освободился в 22, освободился в 32.
Normalement, c'est les plus belles années et j'ai été détenu à 22 ans et libéré à 32 ans.
На висках старина у тебя седина. Не несут, ну, не насетуй на жизнь, что она так трудна, ведь она нам дана только раз, только раз. Так живи для нее в добрый путь, в добрый час. А жизнь, она всегда прекрасна и не стареет никогда. И не проходит в ней напрасно ни день, ни ночь, ни все года. А жизнь, она такая прекрасна, и не стареет никогда. И не проходит в ней напрасно ни день, ни ночь, ни все года. Ты грустишь, старина, что не любит она, и ничто ни почем, ты грош ей цена. Не, но звезда все видна и сияет для нас, так живи для меня в добрый путь, в добрый час. А жизнь, она всегда прекрасна и не стареет никогда, и не проходят в ней напрасно ни день, ни ночь, ни все года.
Une chanson sur la vieillesse. Qui dit vieillesse ne soit pas triste, la vie, elle ne vieillit jamais.
Merci.
Спасибо.
De cette soirée.
Спасибо за этот вечер.
Une soirée de prince.
Вечер князей.
Avec la vodka, avec la bière, avec le vin,
вино,
avec les harengs, avec les poissons, avec le chocolat, avec les bolossoles.
Et tout ça, c'est rien. C'est pas ça, c'est pas ça qui compte.
Mais surtout,
compte, c'est autre chose. Ce qui compte, c'est la mer Noire.
Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван тот город героем, и назван тот город героем. У Черного моря. А жизнь остается прекрасной всегда. Коль старость ты или молод, о, если бы знали, как тянет меня в Ленинград, мой несолнечный город, в Ленинград мой несолнечный город. Там поет он в Одессу мой солнечный. А я уже переначал.
А Одесса, c'est ensoleillé.
У Балтийского моря.
Arrivé, il faisait jour, on est reparti, il faisait jour, c'est-à-dire qu'il était 3h du matin, et on a quitté ainsi Yuri Mikhailovitch Yakovlev, K-63, l'ennemi du peuple, souriant à sa fenêtre, il nous a fait signe, comme un prince. Tout au cours de cette nuit blanche, j'ai pensé à Joseph Kessel et un livre sans doute assez oublié aujourd'hui qui s'appelait Nuit de Prince, où Kessel racontait les folles nuits des Russes de Paris à la grande époque. Et même avec les romances tziganes, parce qu'il y avait aussi cette tzigane mythique qui avait accompagné ces Russes blancs. Et la référence permanente à la fameuse romance tzigane, seule capable d'ouvrir les cœurs et de démêler les cheveux. Là, c'est quand les cheveux sont démêlés, alors là, tout est possible.
Из-под рюмочки, полбутылочки, закружилась, брата, голова, закружилась, закачалась моя дамочка, как и я.
C'était le soir, j'ai vu sur le boulevard une dame qui ressemblait à ma mère. Je me suis approchée, je lui ai proposé d'aller ensemble boire un verre. On est allé dans un petit resto, le temps a passé, on a tourné, on a valsé. Et au petit matin, je me suis réveillée, je n'ai pas compris où j'étais, comme dans un miracle, comme dans les nuages. Mais tout à coup, j'ai réalisé, j'avais plus de manteau, j'avais plus de pantalon. J'avais même plus de bottes. Et voilà cette dame, où était-elle passée? Elle qui ressemblait à ma mère. Elle avait les yeux noirs, elle avait les yeux sombres. Ochi chorni, ochi shguchi, c'est la chanson de Tzigane, les yeux noirs. Ochi chorni, ochi shguchi, voilà. Les yeux noirs, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я мне. Cette romance, je l'ai enregistrée.
Une mémoire oubliée dans les poches du temps. Merci à tous, merci à Yuri, merci à Aude Merlin, notre traductrice. À lire sur le Goulag, il y a énormément de bouquins sur cette question. Le peuple des Ek, dirigé par Geneviève Piron, aux éditions Infolio, par exemple. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à franceinter.com. À la rubrique émission là-bas, c'est juste que vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures. Ou bien vous pouvez aller aussi sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez également réécouter cette émission, ainsi que toute une série d'émissions, notamment celle concernant ce voyage qui ne se limitait pas à Vorkuta, mais nous avons fait un long voyage chez les nénettes du Grand Nord russe, qui aujourd'hui, j'espère, tiennent encore le coup, fragiles qu'ils sont, leur région étant reposant sur des réserves considérables de gaz Et le jour où l'Europe aura besoin de ce gaz, les nénettes auront vraiment des gros soucis à se faire. À la technique aujourd'hui, Eric Morin et Benoît Massir, c'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assistée de Pascal Pascariello avec Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur et qui attend vos observations, vos remarques, vos coups de gueule et vos coups de cœur au 01 56 40 37 37.